Le verbe accueillir est un verbe magnifique, effectivement, et c'est. J'aime beaucoup ça parce que c'est. En fait, notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu consiste essentiellement dans ce qui est contenu dans ce mot. On pense souvent qu'il faut travailler pour Dieu ou faire des choses pour Dieu ou renoncer à des choses pour Dieu. En fait, il nous faut accueillir ce qu'il a à nous proposer, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il veut nous donner. Et c'est pour ça que j'étais content qu'on puisse réfléchir ensemble sur ce que ça peut vouloir dire pour nous d'accueillir, hein, avec tous les domaines que ça inclut, s'accueillir soi-même, bien sûr, et puis accueillir les autres aussi. Tout est là-dedans. J'aimerais continuer aussi avec, ça va ensemble, hein, un autre thème qui pour moi était, voilà, j'ai commencé l'année avec cette idée de se décharger. Mais effectivement, comme ça a été dit, se décharger, ce n'est pas une fin en soi, c'est le préalable à la suite. Hein. Se décharger pour accueillir et se décharger aussi pour vivre cette vie de l'esprit que Dieu nous a mise à disposition. Et j'aimerais prendre un texte dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Là, je vais le lire dans la traduction Semeur, mais elles sont toutes bien. Comme dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné. Ce que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Or, ces choses-là, Dieu nous les a révélées par l'esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, afin que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordé par grâce. Et nous parlons de cela non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. À ses yeux, ce n'est que pure folie. Et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée du Christ. C'est un texte magnifique, très très riche, très profond, et qui nous parle de la réalité dans laquelle nous devrions vivre en tant qu'enfants de Dieu. Peut-être que vous avez remarqué que je parle assez souvent ces derniers temps de cette notion du royaume des cieux ou royaume des dieux. Ce n'est pas par hasard, et je trouve que c'est important. Jésus a prêché le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, c'est synonyme. Et nous, en tant qu'humains, on se concentre trop sur les outils et pas sur le but. L'Église, les églises, les rassemblements d'êtres humains, de croyants pour s'accueillir les uns les autres, pour accueillir Dieu, sont des outils indispensables. On ne peut pas en faire l'économie. C'est biblique. Mais ils ne sont pas le but. Le but, c'est le royaume de Dieu. Et c'est que nous vivions réellement dans le royaume de Dieu. Et une de nos difficultés, c'est justement de toujours, dès qu'un outil est mis à notre disposition pour, je parle dans le domaine spirituel, c'est de nous concentrer tellement sur l'outil qu'on oublie le but. Et là, l'apôtre Paul, arrive dans un niveau qui est différent de lorsqu'il parle de choses, par exemple, il enseigne sur, la moralité, être honnête, être fidèle, être droit, etc., qui sont des choses importantes. Hein. On n'est pas des êtres désincarnés, on vit sur Terre et on doit avoir une éthique et une morale qui sont à la hauteur de ce que Dieu veut pour nous, mais ça ne suffit pas. Ben, ce n'est pas que ça ne suffit pas, c'est qu'on a plus qui sont préparés pour nous. Et ce plus, c'est de ça qu'il parle. Et c'est intéressant comme le texte commence en disant « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. » Moi, je suis quelqu'un avec beaucoup d'imagination. Et déjà, ce que je peux imaginer, c'est, il me semble que c'est énorme. Mais ce que Paul nous dit, c'est que le royaume de Dieu, même les personnes les plus imaginatives, les plus grands romanciers du monde ou les gens les plus créatifs, ne pouvaient pas imaginer ces choses-là. Parce que c'est hors de la pensée humaine. C'est de cela qu'il parle. Et c'est pour ça que seul l'Esprit de Dieu, qui est en communion avec notre esprit, peut nous faire, plus que comprendre, nous faire expérimenter ces choses-là. Et nous avons besoin de nettoyer les mots que nous utilisons. C'est vrai que quand on parle esprit, alors surtout dans une église qui a le passé de la nôtre, hein, là je parle d'église maintenant, pas de royaume de Dieu, de suite on pense à d'autres mouvements qui peut-être ont eu des excès avec le Saint-Esprit, avec ci, avec ça, qui font des choses bizarres, qui sont émotionnelles, ou tout ce qu'on veut. Et c'est pas le sujet ce matin, mais l'esprit, on ne peut pas le posséder, il est en nous, l'Esprit de Dieu, pas parce que nous sommes ses enfants, hein, mais on ne le possède pas, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas l'utiliser, il n'est pas à notre disposition, on n'en fait pas ce qu'on veut. Selon la belle phrase de Francis, on doit juste essayer de lui appartenir. C'est tout. Et la vie de l'esprit, donc, ce n'est pas une vie où on va faire des choses bizarres ou étranges, etc. C'est un processus spirituel dans lequel on va apprendre à lui appartenir. Et bien sûr, ça commence par l'accueillir. Alors oui, il est en nous. On n'a pas à le supplier qu'il vienne en insistant comme faisaient les prophètes de l'Ancien Testament qui se faisaient des, pas les prophètes de Dieu, hein, mais les prophètes de Baal, etc., là, qui se faisaient des incisions et qui suppliaient, qui dansaient, qui hurlaient jusqu'à ce que peut-être leur Dieu les entende. Et Élie se moquait d'eux en disant ah, peut-être vous ne criez pas assez fort, peut-être il est sourd, hein. Et ça serait une fausse compréhension du fait qu'on doit persuader Dieu d'envoyer son esprit. Non, il est en nous, mais je dois l'accueillir, je dois le rencontrer, et puis je dois le laisser faire son travail en moi. Et Virginia nous disait tout à l'heure que c'était difficile pour elle, je pense qu'on est tous pareils, pourtant je ne suis pas du tout suisse-allemand. On n'aime pas que nos plans soient bousculés. Quand on s'est imaginé notre journée ou quand on l'a planifiée, ça dépend comment on est. Hein. Les Suisses planifient, moi j'imagine. Mais le résultat est le même. On a une idée de ce que devrait être notre vie, notre journée, notre futur, notre conjoint, etc. On a nos idées. Hein. Et on dépense une énergie incroyable à essayer de transformer la réalité en ce que nous aimerions qu'elle soit. Et quand dans ce plan-là, il y a les autres, ben c'est embêtant. Hein, parce que non seulement je suis en train de me torturer, mais je torture les autres. Hein, vous connaissez cette petite blague que je raconte tout le temps de ce couple qui va pour du conseil chez un conseiller conjugal. Et puis, vous dites, qu'est-ce qu'il y a ? Et le mari dit, ben, ma femme écrit le livre de notre vie. Ben, c'est beau, c'est quoi le problème ? Elle l'écrit 2 semaines à l'avance. Et puis... on aurait pu mettre dans l'autre sens, hein. Attention. Mais voilà, c'est la tendance humaine parce que ça nous rassure. Dans le royaume de Dieu, une des caractéristiques, c'est que justement, personne ne contrôle personne. Ou plutôt, l'Esprit de Dieu est là et on va volontairement, si on le désire, s'y soumettre pour entrer dans les plans de Dieu. On a souvent donné cette image où on vient à Dieu avec nos projets. Alors, nos projets bibliques, doctrinaux, intelligents, etc. Puis on les a écrits, hein, c'est le plan pour notre vie, pour notre église, pour notre famille. Et puis, on prie pour que Dieu signe. Hein. Et puis, on pense que c'est de la prière d'intercession. Et on utilise même des versets. Bénis l'œuvre de nos mains. Oui, c'est vrai, bénis l'œuvre de nos mains. Sauf que Dieu nous dit, je vais bénir l'œuvre de tes mains, mais on va faire autre chose. Prends la feuille comme ça, signe en bas, je suis d'accord, et puis moi, je vais la remplir jour après jour. Ouh, est-ce que j'ai envie d'accueillir cette idée, hein? Alors comme ça, c'est joli, c'est romantique. Mais concrètement, ça veut dire une chose, c'est que ça devient compliqué pour moi de faire des plans. Et je ne parle pas ici au niveau matériel et humain. Oui, on doit planifier nos rendez-vous, etc. Hein? Mais je parle dans notre compréhension de la vie, de notre futur, de notre vie individuelle, de notre vie avec nos amis, nos relations, de notre vie communautaire, parce qu'on est appelé à vivre ensemble et à s'accueillir. Et vivre par l'esprit, donc, ben, c'est des choses auxquelles on n'avait pas pensé, que l'œil n'avait pas vu, que l'oreille n'avait pas entendu. Ce n'est pas le fait qu'on va chercher des choses extravagantes, c'est juste que ce n'est pas celles qui sont naturelles. Et Paul continue en disant, ces choses-là, Dieu nous les a révélées par son esprit. Donc, il n'y a pas un effort particulier à faire pour le convaincre de nous les expliquer. Il veut nous les révéler. C'est juste que dans le processus, il y a un ordre. Je pense que la plupart du temps dans nos vies, notre difficulté, c'est qu'on ne sait pas mettre les choses dans le bon ordre. On a tous les éléments, mais on ne sait pas les mettre dans le bon ordre. Et donc, c'est compliqué parce qu'on n'a rien de faux quand on prend les morceaux. Mais ils ne sont pas dans le bon enchaînement. Et du coup, ça n'aboutit pas. Hein. Et ce qui nous est proposé là, c'est justement de mettre les choses dans le bon ordre. De laisser d'abord Dieu nous conduire avant de faire nos plans. Et puis, de le laisser nous révéler ces choses. Donc, on n'a pas à le persuader. Et il dit, afin que nous connaissions, verset 12, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous, on essaie par la connaissance de connaître Dieu, alors que c'est en connaissant Dieu qu'on va acquérir de la connaissance. Alors vous allez dire, oui, mais il faut le connaître d'abord. Oui, mais la partie, j'allais dire, rationnelle, intellectuelle, qui est indispensable, hein, est là juste pour nous donner la direction de départ. Mais ce n'est pas le but, c'est juste un panneau. Ce qu'il faut ensuite, c'est que notre esprit soit uni à l'esprit de Dieu. Et là, on va vivre quelque chose de différent, quelque chose que l'œil n'avait pas vu, que l'oreille n'avait pas entendu, qui n'était pas monté à notre imagination, et que Dieu, dans sa grâce, puisque tout est le royaume de Dieu, c'est la grâce qui règne, hein. Et dans ce royaume-là, on va être... C'est un royaume où on peut pas, je peux pas dire ce terrain m'appartient, ça c'est ma maison, ça c'est... On y est, on voyage, on se déplace, tout est à notre disposition, mais rien n'est à nous et tout est à nous et on est à tout, mais on possède pas comme on possède ou qu'on aimerait posséder sur terre. Et c'est ce qui est difficile. Et le monde séculier. Qui souvent connaît des valeurs du royaume de Dieu, mais qui les applique à sa façon. Hein. On parle énormément de nos jours de lâcher prise, hein, tout quel que soit le sujet, là, il faut lâcher prise. Hein. Mais c'est une valeur du royaume de Dieu de lâcher prise, parce que dans le royaume de Dieu, justement, je n'ai pas à m'accrocher à quoi que ce soit, parce que je dois juste me laisser conduire par l'Esprit de Dieu et vivre là. Mais ça veut dire que ben, je ne maîtrise pas demain et je ne maîtrise pas les autres, surtout pas, je ne dois pas. Et je ne maîtrise même pas ma vie. Et on n'aime pas ça. On n'aime pas. Hein. C'est désécurisant jusqu'au moment où on comprend justement spirituellement que non, ce n'est pas désécurisant, c'est du repos. Parce que j'ai plus à performer pour faire quelque chose, je suis plus jugé en fonction de ce que je vaux, ou de ce que je produis, ou de ce que je réussis, ou de ce que j'échoue. Je peux juste être moi, qui je suis, comme je suis aujourd'hui dans cet endroit-là. Rien m'appartient, mais je dispose de tout. Et puis, je peux juste faire un pas de plus, et puis un pas de plus, et comme ça. Et je fais mon parcours là-dedans. Mais nous, on aime tellement s'accrocher. Dressons là trois pierres, faisons trois tentes, construisons un temple, un petit rituel, un machin, un truc, une façon de faire. Non, Et Jésus nous a donné un exemple incroyable. C'est fou comme on se complique la vie à essayer de voir des théories fumeuses, alors que en lisant les évangiles, et je ne dis pas que les épites ne servent à rien, elles sont utiles, mais et en observant Christ, on a tout déjà. Le royaume de Dieu, quand Jésus a dit qu'il était venu l'amener sur terre et qu'il était en nous, parmi nous, sa façon de vivre en témoignait. Comment il vivait? Alors je ne dis pas qu'on doit tous vivre sans maison, en marchant dans les rues d'un endroit à l'autre, mais ça nous parle quand même de principes qui sont forts. S'il avait voulu installer une maison d'études, il l'aurait fait. S'il avait voulu écrire des livres, il l'aurait fait. S'il avait voulu commencer une université, il l'aurait fait. C'était juste, il allait d'un endroit à l'autre, et puis les gens qui voulaient le suivre, le suivaient, point à la ligne. Et puis, ils ne demandaient rien. Si, de temps en temps, ils disent, vous ne voulez pas partir? Ah, vous voulez rester? Vous pouvez rester, allez, on y va. Et puis, il n'était jamais où on l'attendait, il ne faisait jamais ce qu'on pensait qu'il allait faire. Vous voyez cette idée, quand Paul dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, et Jésus ne faisait jamais ce qu'on s'attendait qu'il fasse. On vient lui dire, ton ami Lazare est en train de mourir, vite, viens faire un miracle, tu as déjà ressuscité des morts, lui il n'est pas encore mort, tu peux faire quelque chose. Et Jésus dit, on va rester 3 jours de plus ici. Non mais, c'est pas sérieux. Jésus c'est ton ami. Ça c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait, j'en sais rien pourquoi. On peut inventer des raisons, peut-être parce qu'il voulait montrer qu'il pouvait le ressusciter, mais en fait on n'en sait rien. Parce que l'esprit va où il veut, il fait ce qu'il veut, et puis Dieu est tellement grand, on ne peut pas comprendre toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas notre problème, parce que nous, on n'a pas inventé le plan. On a juste à vivre la vie qu'il nous a préparée, si on la veut, si on l'accueille, si on la reçoit, si on y consent. Du coup, il n'y a plus d'ennui, il n'y a plus d'inquiétude. On s'en fait quand même, mais il ne devrait plus y en avoir. Parce que Jésus a dit, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le royaume de Dieu, même si on est tous encore dans l'espace et le temps, est déjà un peu intemporel, parce qu'il n'y a que du présent. Alors oui, je sais que le passé, c'est le présent d'hier, et puis le futur, c'est le présent de demain. Mais dans la réalité, et c'est notre réalité aussi en tant qu'humain, on n'a rien d'autre que le présent, qu'on ne peut pas saisir, mais qui est là et qu'on vit. Et c'est comme ça que Jésus vivait. Et donc, je reviens à mon texte quand même un petit peu. Non, il est ici. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est difficile, je trouve, à communiquer ces choses-là. Mais moi, j'ai l'impression que souvent dans ma vie, je fais à l'envers. Et puis, il nous dit non, c'est le contraire. Ça va comme ça. Et je reviens à une illustration qui est plus simple lorsque, dans l'enseignement du Christ, lorsque dans Matthieu 5, ce qu'on appelait le sermon sur la montagne, il y a toute cette série, il y en a plusieurs, où Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Et avant de commencer cette série, il dit, au verset 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Et le mot « accomplir », il veut dire « amener à son parfait développement ». Une fleur accomplie, c'est un fruit. Un enfant accompli, c'est un être humain adulte, mature. En fait, la loi, elle était là pour donner une piste morale, pour révéler aussi le fait qu'on était incapable de l'accomplir, qu'on était pécheur, mais Christ a réglé ce problème-là en mourant, en ressuscitant. Ça, c'est les préliminaires, le préalable. Mais ensuite, il y a, dans cette semence de pureté et de vérité, il y avait une direction pour plus. Et Christ est venu nous la révéler. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, alors il prend plein de cas différents, le premier, c'est « Tu ne commettras pas d'adultère. » Mais moi, je vous dis, celui qui a regardé une femme et qui la convoite dans son esprit, il a déjà commis l'adultère. Que fait Jésus par ces paroles-là? Il nous montre comment, dans le domaine visible, dans les choses matérielles, on peut contrôler les choses. Mais lui, il va amener les choses plus loin, là où on ne les contrôle plus, pour qu'on puisse passer à autre chose. Hein. Et puis, comment je peux être délivré de mes mauvaises pensées, de mes fantasmes tordus ou de tout ce qui peut aller ? Ben là, c'est, si ce n'est pas Dieu qui vient en moi, qui le fait, c'est impossible. Et je vais d'avoir là aussi lâcher prise ce désir de devenir parfait et saint pour simplement me concentrer sur laisser son esprit en moi agir et me conduire. Lorsqu'on est rempli de la vie de Dieu, on n'est plus tenté par le mal. Et bien sûr, aucun être humain vit comme ça tout le temps, sinon ça se saurait. Hein. Mais on a ces petits bouts, ces petits moments où on le vit et où on en ressort ben, comme les disciples sur la montagne, transfigurés. Et immédiatement, qu'est-ce qu'on se dit ? Ah, c'est ça qu'il faut vivre ! Et on voudrait dresser trois tentes et figer la chose. Mais non, la vie demain ne se trouvera pas là, ou dans un quart d'heure. Elle est ailleurs autrement, mais c'est la même vie. Et on va apprendre à la connaître. Et il y a tous ces... Toute cette répétition, hein, vous avez appris qu'il a été dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Il ne dit pas le contraire, il le pousse jusqu'au bout. Et c'est ça, ces choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu nous a révélées par l'Esprit, qu'il a mis en réserve pour ceux qu'il aime, afin que nous connaissions, que nous découvrions, que nous comprenions tout ce qu'il nous a préparé par grâce. Hein. Et donc, il y a un premier, il nous faut connaître la bonne direction pour tout lâcher et pour redécouvrir. C'est l'expérience de Job, par exemple. Job, il faisait tout bien. Et les sacrifices, et la loi, il respectait tout. Et même, il faisait des sacrifices pour les gens dans son entourage qui, peut-être, ne faisaient pas tout bien. Hein. Ouais, les enfants, vous savez ce que c'est, ils sont jeunes, ils font la fête, peut-être qu'ils ont fait un peu déborder. Alors le matin, il offrait aussi un sacrifice pour ses enfants, et puis il pensait qu'il maîtrisait tout. Je fais tout bien, Dieu me protège, je fais ce qu'il m'a dit, je lui obéis à la lettre, et puis lui, il prend soin de moi et de ma famille. Et sa vie commence à partir en vrille, pour le dire gentiment. Hein. Pouf, les possessions matérielles, et les enfants, et ci, et ça, et tout explose. Et puis, bah, il garde sa femme, mais apparemment, ce n'était pas la meilleure chose qu'il y avait dans sa vie. Désolé, ce n'est pas parce que c'est une femme, mais hein, maudit Dieu, meurt. Enfin, voilà, ce n'était pas du bon conseil. Les amis, normalement, on dit, reste au moins les amis. Les amis viennent, ils sont bien, ils sont droits. Hein, ils ne disent pas des bêtises moralement. Mais ils sont complètement à côté, parce qu'ils restent au domaine naturel. Et Job, quand même. T'as fait quelque chose pour qu'il t'arrive tout ça. C'est pas possible qu'autant de malheurs se concentrent sur une seule personne et qu'elle y soit pour rien. Tu te fais l'égal de Dieu. Tu... Et Job, il comprend pas. Il comprend pas, mais il est honnête et il veut pas céder juste pour faire plaisir aux autres. Et puis, il commence à se disputer avec Dieu. Et c'est le début du début. C'est la fin d'un royaume où Job contrôle les choses. Il se dispute, jusqu'à ce que Dieu finalement lui réponde et puis remette les choses à leur place dans un premier temps. Hein. Hey Job, t'étais où quand j'ai mis les dents dans la gueule du crocodile ? Quand j'ai fait ci, quand j'ai fait ça, quand j'ai fait le ciel, quand j'ai... Et puis là, Job, il... j'ai parlé un peu vite. Hein. Et puis, il se passe quelque chose, et c'est ce quelque chose dont j'essaie de parler, mais on ne peut pas en parler. Parce que quand on le vit, on sait ce que c'est, mais ça, on ne sait pas le raconter vraiment après. Hein. Mais il y a un basculement, et Job dit, j'ai parlé sans les comprendre de choses qui me dépassent. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. C'est ça, ces choses que... Ben ouais, je faisais tout comme il faut. J'appliquais les lois que je pensais être les bonnes, et puis je respectais tout, et puis en échange, Dieu me devait de... Et maintenant, j'ai compris une chose. Dieu ne me doit rien, et puis il me donne tout. Mais rien ne m'appartient, et je ne possède rien. Et rien n'est à moi. Mais du coup, puisque rien n'est à moi, je ne peux rien perdre. Et donc, je suis riche, parce que j'ai tout ce qu'il me faut. C'est carrément un renversement complet. C'est une autre façon de penser. On nous apprend, bah, si tu veux être en sécurité, bah, mets de côté, bah, économise, bah, assure ça, fais comme il faut, fais ci, fais ça. Et on vit sur Terre dans le domaine matériel, c'est des bons conseils, il faut le faire. Hein. Mais le problème, c'est qu'on transpose ça spirituellement et on fait la même chose. Je fais ce qu'il faut, je fais comme il faut. Puis on voit l'autre là-bas qui a des problèmes, on se dit, oups, il n'a pas dû faire quelque chose comme il faut. Hein. Non, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Job n'avait rien fait de mal, il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Enfin, si, il était pêcheur comme tout le monde, mais... Il n'avait pas fait quelque chose de particulier qui faisait que. C'était une dispute entre le diable et Dieu. Et puis surtout, Dieu voulait l'amener de « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. » Et il voulait les faire entrer dans cette dimension-là. Et on ne peut pas le comprendre, et en même temps on peut le vivre. Et Paul termine avec cette phrase qui, bon, c'est vrai que Paul était un peu présomptueux des fois, mais qui est assez incroyable quand il dit « Or, nous avons la pensée de Christ. » Hein, c'est fou qu'il puisse dire comme ça, tranquille, quoi, voilà. Et en même temps, c'est vrai. Mais ce n'est pas qu'on la possède, nous avons la pensée de Christ parce que nous l'avons accueillie. C'est plutôt elle qui nous possède, enfin Dieu ne possède pas, mais c'est elle qui nous habite. Hein. C'est elle qui vit en nous. Et cette pensée est une pensée de grâce, une pensée qui libère, une pensée où on n'entend plus rien de moi, donc je suis capable de tout. Je ne peux pas faire faux, mais je vais faire au mieux. Et puis, je ne suis plus évalué sur ce que j'ai fait, pas fait, mal fait, réussi, pas réussi. Et je suis accepté, aimé comme je suis. On n'attend rien de moi et je vais tout donner. Et je vais juste vivre... Sans poser, en sortant de ce raisonnement, mais j'ai fait assez, j'ai fait trop, j'ai fait bien, j'ai fait pas bien, j'ai fait mieux, j'ai fait plus que lui, j'ai fait moins, ça n'existe plus dans le royaume de Dieu. C'est cet autre domaine que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, où il n'y a pas de comparaison, parce qu'on ne compare pas des poires à des poissons rouges et des chaises. Or Dieu nous a tous créés différents, et on ne peut pas comparer l'un et l'autre avec lui. Non, on est, voilà, unique. Et on est là dans ce royaume et on vit en liberté. Et bien sûr, ben, tellement souvent on en sort ou on n'y vit pas, ou on l'oublie, ou on n'en est pas conscient, mais le but c'est qu'on l'accueille. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Ça ne parle pas de ne pas aller en enfer. Sauver nos âmes, c'est les arracher à ce monde où on compte, où on évalue tout le monde, t'as fait assez, t'as pas assez, t'es rentable, t'es pas rentable, t'es meilleur, t'es plus grand, t'es plus beau, t'es plus fort. Et cette pensée de Christ nous sauve de ça et nous amène dans un royaume où je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et ça me suffit et je suis bien et je me pose pas de questions sur j'ai fait assez, j'ai pas fait assez, juste Dieu m'aime et je l'aime et ça s'arrête là. Hein. Ces choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Et pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et puis ça s'alimente comme ça. Et notre combat, il y en a un, il est violent. Hein, c'est justement de l'accueillir. Et c'est drôle parce que l'accueil, c'est quelque chose de doux normalement. Et en même temps, c'est violent. Parce que accueillir la pensée de Christ, c'est difficile. C'est contraire à tout autour de nous. Hein. On est toujours sur le mérite, sur ce qu'il faut, ce qui se va, sur la valeur, sur le prix, sur toutes ces choses-là, sur l'apparence, sur le succès. Et Dieu dit non, accueillez autre chose, le monde de mon esprit, de la grâce, le royaume de Dieu, qui n'est pas visible pour les yeux, mais qui est l'essentiel. Et vivez-y dedans. Et puis après, ben, que le Seigneur nous fasse la grâce de trouver les mots pour en parler, mais au-delà des mots, c'est le poids de la réalité derrière qui va faire que on rencontre quelqu'un et on se dit tiens, il y a été lui aussi. Et on essaie d'en parler, on ne comprend pas tout, mais on sait qu'il y a été, hein, parce que ben voilà, il y a quelque chose d'indéfinissable qui sait que il connaît aussi cet endroit. Et comme moi, il y vit pas tout le temps, mais comme moi, il aspire à y vivre. Et puis c'est comme ça qu'on s'encourage les uns les autres à aller de l'avant.